voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens.
Et on se retrouve avec l'émission Entrée des artistes. Viens voir les comédiens, les musiciens, un jour ça va revenir. Et on a besoin des techniciens quand on est sur le plateau. Et donc à ma gauche, Géraud.
Bonjour.
Bonjour. Donc toi qui es plutôt dans le cinéma.
C'est ça.
Donc voilà, mettre en... Voilà, pour que les artistes aussi, les acteurs, on dit, voilà, les acteurs puissent évoluer devant la caméra, les mettre en valeur. Et à ma droite, j'ai Rodrigue.
Bonjour Rodrigue. Tout à Rodrigue. Fait. Bien le bonjour.
Technicien en devenir.
Tout à fait.
Lumière, donc pour éclairer le plateau, le son.
Tout à fait.
Très important, donc c'est les techniciens des... Un précieux, précieux métier pour que ben voilà, toute l'alchimie, voilà, que le décor, la musique, la lumière, voilà, tout ça, ça, c'est un ensemble avec ben, tout le milieu artistique. Et avec moi pour animer cette émission, Aramis.
C'est ça, de retour.
De retour.
Pour la seconde émission.
Tout à fait. C'est ça. Donc Géraud, toi tu viens de Loye.
C'est ça.
Donc on a eu ton papa lundi.
Oui.
Il a bien rigolé. Je me suis beaucoup trompée dans les...
Ah ouais.
Oui, oui, mais pas grave. Donc tu as 21 ans.
Oui, bientôt.
Et donc Thomas qui était dans une école de cinéma à Nantes, donc toi qui es en première année. Donc toi, tu as été dans cette,
ouais,
dans cette école.
Je suis sorti en septembre dernier.
D'ailleurs, moi et ma soeur, on avait participé à un court-métrage.
Exactement.
Que j'ai revu il n'y a pas longtemps.
C'est vrai.
Ouais, et que je trouvais super bien
que
d'ailleurs.
Que vous pouvez trouver sur YouTube, Jack 2.2.
C'est ça.
Sur YouTube, ouais.
Et que j'ai re-regardé et que j'ai trouvé vraiment...
Ça fait longtemps que je l'ai vu.
re-regarde-le parce
je pense que
franchement...
Ça a vieilli, ouais.
Bah
ouais,
peut-être, ouais. Mais moi j'ai trouvé ça super quoi.
Ouais, c'est vrai que c'était sympa.
Et après ces deux années, donc
trois.
C'était trois années.
Trois ans, ouais. Ouais, ouais.
Et ensuite le parcours alors?
Là, je suis sorti en septembre, donc le parcours, ça a été... le Covid n'a pas trop aidé, on va dire, parce que l'industrie s'est effondrée au moment où je suis sorti, donc ça tombait bien. Et c'est reparti, là, en 2021, ça commence à repartir tranquillement, et donc j'ai pu trouver du travail à Paris, dans un studio qui s'appelle Digital District, qui est spécialisé en post-production, et surtout en effets visuels, ce qui est mon métier. Tout ce qui est effet numérique. Donc création 3D, intégration des acteurs qui sont filmés sur fond vert ou ce genre de choses dans l'image.
Comment ça se passe? C'est vraiment, on te demande un travail spécifique pour, là c'est pour un film, c'est
ouais.
Pour,
Alors là je suis sur trois longs métrages, on en a fini deux la semaine dernière, donc c'est des courts métrages très variés, il y a du film d'horreur, de la comédie, du film d'aventure. Et donc, on reçoit des plans du montage. L'équipe de montage nous sort les plans qui ont besoin d'être travaillés. On les reçoit. Et moi, j'ai un producteur VFX qui gère tous les artistes qui sont là. Et puis, on va travailler au plan par plan. Donc, moi, je vais avoir, 10 plans à faire et je vais travailler ces plans-là et faire ce qui est demandé. Donc, ça peut être très, très varié. Ça peut être supprimer des éléments, rajouter des éléments. Il y a des éléments qui viennent du département 3D qu'on doit intégrer dans l'image. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Tout ce qui va être la retouche numérique, on va travailler là-dessus. Ouais.
J'ai un côté magicien.
Ah ouais, ouais. Un côté un peu rêve, ouais. Ouais, ouais.
C'est ce vrai, plaît, parce c'est que tu dis, j'apparais, je réapparais.
C'est vraiment ça. Ouais, ouais, on efface des choses, on les remplace. En fait, on crée une image, on passe de l'image vraiment technique, des fois, qui n'est pas toujours superbe, où il y a des défauts, tout ça, on enlève tous ces défauts. Et on crée
donc, une image réelle, enfin, filmée, et toi, tu passes derrière, tu peux gommer des choses, quoi.
Oh, ça peut même être une image pas filmée du tout, ça peut être une image entièrement 3D.
Ouais.
Entièrement en image de synthèse, et notre but c'est de faire comme si c'était filmé par une vraie caméra, avec les défauts d'une caméra, avec les spécificités d'une caméra, faire croire que la lumière est passée à travers un objectif et enregistrée sur un capteur ou sur une pellicule selon les besoins du film. Ouais.
Ouais. Donc j'imagine qu'au niveau logiciel et tout, ça doit être vraiment ardu de...
Oui, alors ça dépend des... Il y a...
Si t'as ton matériel, t'as investi dans ton matériel?
Non, alors on travaille avec le matériel du studio.
Ouais.
Moi, j'ai mon matériel à la maison pour faire mes trucs à moi, mais c'est absolument pas obligatoire. La plupart des logiciels ont une version gratuite qu'on peut télécharger à la maison. J'ai commencé comme ça, en fait. On télécharge ça pour une utilisation non commerciale. On peut vraiment faire un peu ce qu'on veut. On a très peu de limitations par rapport aux vraies versions des studios. Et une fois qu'on est dans un studio, donc ils ont tout ce qu'il faut, ils ont même ce qu'on appelle des farms de rendu, qu'on a des plans très 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 lourds. Un ordinateur ne suffit pas pour le rendre, donc du coup on a 150 ordinateurs qui vont calculer une image, enfin plusieurs images en même temps, et comme ça on sort les plans beaucoup plus vite. Ouais.
Et toi, ton statut, alors tu es intermittent?
Ouais,
ou tu...
intermittent. Je suis intermittent. Ouais. Alors, on peut être freelance, mais souvent c'est plus de l'intermittence. Ouais. Ouais,
ouais. D'accord, c'est par projet quoi.
Ouais, bah c'est par projet ou même par pige. On dit voilà, on a là c'était 3 films, on te prend 1 mois et demi, tu bosses sur les 3 films.
Et ce serait quoi par exemple l'avantage de ou les inconvénients de se lancer en freelance? Et en freelance, c'est du coup tu montes ta boîte, c'est ça, et on fait appel à ta boîte pour
ouais, sur des, ouais, des en fait c'est là c'est vraiment spécifique, ça dépend de si tu veux être libre ou pas. En gros, si jamais t'es freelance, tu peux choisir ton projet beaucoup plus facilement. Si t'es intermittent, t'es un peu plus dépendant du studio, mais j'aurais tendance à dire qu'en débutant, se lancer en freelance, c'est quand même compliqué parce qu'il faut quand même avoir un réseau très solide. Et il y a beaucoup de gens qui commencent dans un studio et une fois qu'ils se sont fait un réseau, ils se mettent en intermittent et ça leur permet déjà d'avoir un travail un peu plus large. C'est-à-dire que s'ils veulent essayer au montage, bon bah ils peuvent se mettre en montage sur un truc. En studio, il y a le monteur qui fait le montage, il y a celui qui fait les effets visuels, il fait sa partie d'effets visuels. Donc en freelance, on est un peu plus libre là-dessus, mais je pense que c'est pas forcément la meilleure idée de se lancer directement. D'accord. Là-dessus, c'est un peu risqué.
Alors, est-ce que t'as un style d'image que tu préfères ?
J'aime bien les grosses images qu'il envoie. Michael Bay, c'est le genre de choses. Ouais, non, mais les images qui me font rêver. Alors, c'est toujours hyper plaisant de voir des plans absolument magnifiques et on sait que la plupart des choses sont faites en numérique et qu'on ne le voit pas. Moi, le film qui m'a marqué là-dessus, c'est Gatsby le Magnifique avec Leonardo DiCaprio en 2012. Et en fait, on voyait New York en 1930. Et quand on regarde les making-of des studios qui ont fait ça, en fait, tout est en 3D. Et j'y avais vu vraiment que du feu. Je pense que la plupart des spectateurs y ont vu que dalle. Et c'est vraiment formidable. C'est-à-dire que c'est toujours intéressant de voir que les gens disent « Ah ouais, ils ont mis un dragon à maison. » On dit « Ah ouais, le dragon, il est réaliste, on voit. » Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est que tout l'environnement autour du dragon est aussi fait en 3D. Sauf que c'est tellement bien fait qu'on le voit pas. Et c'est toujours sympa de voir, il y a énormément d'anecdotes comme ça, où on voit par exemple sur Iron Man, les premiers Iron Man, ils ont hésité à faire soit le costume en réel, soit en 3D. Et ils ont fait plein de versions. Et un jour, le réalisateur arrive et dit « Ouais, le costume là, c'est pas encore tout à fait réaliste. » Et en fait, il montrait le costume qui était réel, au lieu de montrer le costume en 3D qui était à côté. Donc en fait, on est arrivé à y a un step où la 3D était plus réaliste que la réalité. Mais du coup, c'est toujours vraiment... je trouve ça vraiment fascinant de voir ce qu'on peut faire avec nos machines aujourd'hui, quoi.
Alors, tout petit, est-ce que tu filmais ? Ou tu t'es amusé avec une caméra ? Enfin, comment c'est venu, là, ce côté image ?
C'est venu beaucoup en regardant des making-of de films, ce genre de choses. Oui, je filmais un peu comme tous les enfants quand on a une caméra, un truc, mais c'était pas forcément encore accessible. Aujourd'hui, c'est très facile. On a un téléphone, n'importe quel téléphone filme et filme bien. Ce qui est sympa, moi, je suis pas très vieux, mais bon, c'était pas encore tout à fait le cas. Mais je faisais beaucoup de montage, ce genre de choses. J'aimais bien, mais c'était nul, mais c'est pas grave, j'aimais bien. Et ouais, j'ai un peu commencé comme ça, je pense. Je pense qu'on commence tous comme ça, à voir des films, à se dire je veux faire ça, et puis...
On filme les animaux
Ouais, on filme... Même des fois, c'est moins bien que des animaux, on filme des trucs qui n'ont pas de sens, mais on est content quand on les filme.
Ouais. Donc là, tu sens, t'as trouvé ta voie, t'as envie de percer dans ce métier-là.
Ouais, et puis il y a tellement de choses encore à apprendre, à faire... Enfin, j'ai pas encore travaillé sur des Spielberg encore, donc j'ai encore un peu de chemin pour arriver jusque-là.
Mais déjà, avoir trouvé du boulot, déjà en sortant, c'est grâce à l'école aussi qui t'a permis d'avoir un réseau ?
Enfin, plus ou moins. C'est-à-dire que l'école m'a permis d'avoir une convention de stage. Et ça, ça a été vraiment essentiel parce qu'en deuxième année, on peut faire un stage et j'ai pu rentrer dans un studio qui s'appelle MacGuff à Paris. Et en fait, donc là, je ne travaille pas pour MacGuff actuellement, mais c'est des gens de MacGuff qui m'ont embauché dans ce nouveau studio. Et si j'avais pas eu l'école qui m'avait permis d'avoir une convention, je sais que ça aurait pas été possible en fait, parce que pour des questions d'assurance, tout ça, on prend pas n'importe qui. Et donc ouais, je pense qu'une école c'est vraiment pratique pour ça. Et aussi si on veut travailler à l'étranger, avoir un diplôme pour avoir un visa de travail, ça aide beaucoup. Donc c'est un peu les avantages d'une école.
Donc toi, tu travailles. Quelles sont tes relations avec la personne qui fait le film? C'est quoi? T'es pas avec le réalisateur? T'es avec le...
Ah non, j'ai aucune relation avec eux. En fait, ce qui se passe, heureusement, parce que sur des films, encore nous, là, c'est des petits projets où on est peut-être une dizaine d'artistes dessus. sur un film gros budget où il y a 400 artistes qui bossent. Vous imaginez 400 artistes qui vont avoir l'oreille en disant oui, enfin le gars il peut pas. Donc on
mais,
a.
Mais frais de route.
Ouais, c'est ça. Mais ouais, ouais, alors tu préfères bleu ou rose le... Non, c'est pas possible. Donc on a des référents, on a des superviseurs et on a un producteur VFX qui lui s'occupe de ça et qui est là. Et quand j'ai une question, c'est à lui que je demande. Et lui est en direct avec le réalisateur quand il y a besoin. Donc le réalisateur, moi, je les ai jamais rencontrés, ni même les acteurs, ni l'équipe de tournage, en fait.
Tu vois la fin.
Exactement, je vois la fin.
Parce que c'est vrai que nous, enfin, à l'extérieur, on voit bien, quand on voit le générique d'un film, il y a une hiérarchie de dingue, quoi.
Ouais.
Et le nombre de personnes qu'il faut,
ouais.
C'est, on sent que chaque tâche est différenciée. Et...
Ça va très, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens généralistes qui savent tout faire. En tout cas, qui savent tout faire extrêmement bien. C'est-à-dire que maintenant, on est arrivé à un tel niveau de l'industrie, à un tel niveau de spécialisation et de compétences, que dans un studio, il y a le gars qui fait les cheveux. S'il y a besoin de faire des poils, il y a le gars qui sait faire les poils. Il ne fait que ça. Il y a des gens qui ne font que des simulations. Et donc, on est obligé d'avoir ça parce qu'il y a un besoin de connaissances tel dans chaque domaine qu'on ne peut pas avoir des gens qui savent tout faire. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des génériques de 4 km de long que personne ne regarde.
Non.
Parce que c'est illisible. Surtout, les effets visuels, c'est toujours là où il y a le plus de monde et c'est à la fin, c'est juste avant les musiques. Donc, personne ne s'occupe de ça. Mais c'est pourtant, c'est les gens qui ont souvent travaillé le plus longtemps sur le film. Parce qu'un tournage qui dure 6 mois, ça n'arrive jamais, alors qu'on peut très facilement passer un an à faire des effets visuels. Et c'est les gens, ouais, souvent, qui ont passé des nuits, des semaines de 100 heures à sortir le film, quoi.
Et au niveau des conditions de travail, enfin, je sais que dans le domaine du jeu vidéo, souvent, ouais. les développeurs, enfin, les graphistes, etc., ils sont un peu exploités. Et enfin, je sais pas comment ça se passe dans le monde du cinéma. Enfin, exploiter, c'est... Comme c'est peut-être pas reconnu et qu'il y a une grande demande, je sais pas, des fois peut-être que les grandes licences de jeux vidéo ont tendance à donner des taux horaires absolument énormes. Et du coup, c'est vrai qu'il y a souvent j'entends ça, j'ai regardé des interviews de graphistes, etc., qui travaillent dans le monde du jeu vidéo. Et souvent, c'est un peu dur, quoi. Enfin, c'est éprouvant.
C'est la même chose.
D'accord.
Dire. Le jeu vidéo a une fois de plus copié le cinéma. Ça veut dire que ouais, c'est vraiment un gros problème. Il y a même en Nouvelle-Zélande, où il y a un des plus gros studios du monde qui s'appelle Weta Digital, qui a été créé par Peter Jackson pour faire Le Seigneur des Anneaux. Et c'est un studio de monstres. Et en 2013, quand ils ont fait Le Hobbit, il y a une loi qui est passée dans le pays à cause d'eux. Parce que c'était même plus possible, c'est-à-dire qu'ils faisaient 120 heures par semaine et les mecs dormaient sur place. Et il y a des pays, il y a beaucoup de studios qui délocalisent dans des pays un peu plus laxistes sur les droits des travailleurs et tout, justement parce que c'est facile de faire travailler les gens 14 heures par jour et que c'est un peu problématique. Ouais.
Bon, je te conseille de faire une petite pause là.
Ouais.
Donc, j'ai demandé une musique que tu voulais faire passer.
Ouais, alors là, on est sur une musique de Pirates des Caraïbes, qui est un film que j'adore. Et c'est le genre de films qui ont beaucoup fait avancer l'industrie également en termes de créativité. C'est un peu comme les Star Wars et tout ça. C'est le genre de film où on arrive avec une idée et on l'a jamais faite, on ne sait pas comment la faire. Et Pirates des Caraïbes, j'ai choisi cette musique qui n'est pas forcément la musique connue de Pirates des Caraïbes, mais elle est vraiment superbe parce que c'est une scène vraiment incroyable du film où Jack Sparrow a l'idée de faire retourner le bateau, donc ils se mettent à courir dans tous les sens. Et on a un côté très virevoltant au début, et plus ça va, plus la musique prend d'ampleur parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément une si mauvaise idée, ce qui fait que ça va peut-être les sortir de la merde. Et je trouve que ça représente bien l'industrie. C'est-à-dire qu'au début, on a eu des mecs comme George Lucas qui ont dit j'ai une idée, et tout le monde se dit mais non, faut pas faire ça. Et en fait, il a fait son truc et on s'est rendu compte que c'était pas une si mauvaise idée et qu'aujourd'hui, c'est des trucs qu'on voit partout. Donc je trouve qu'il y a une espèce de chassé-croisé entre les deux qui vont bien ensemble.
Bah, allez, on écoute. Pirates des Caraïbes, papi, Axel, papi, si tu l'as.
Papi's dans. We'll be right back.
Alors, bah, maintenant, on va parler de Rodrigue Dessa.
Allons-y.
C'est parti. Alors, qui...
Donc, Rodrigue, j'ai dit Bouer.
Tout à fait, oui, Bouer.
Que des gens qui viennent du coin.
Du coin, 17 ans.
Ça, c'est super. C'est ça. Donc, écoute, Rodrigue, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais en ce moment ?
Allez. Je suis actuellement en première année de DNMAD spectacle Régisson à Nantes.
D'accord.
Donc c'est un diplôme qui nous forme à la technique du spectacle pour devenir régisseur. Donc c'est un diplôme en 3 ans. Et donc il y a 2 spécialités là-bas qui sont le son et la lumière. Donc moi je suis en son, même si en dehors des cours et même en cours on peut travailler la lumière avec des cours qui sont communs et sur tous nos temps d'autonomie le soir par exemple.
D'accord, et comment t'en es venu à vouloir devenir technicien dans le milieu du spectacle vivant ?
Tout à fait, et bien déjà de base, je fais de la musique au conservatoire Sablé, du violon et puis de la guitare. Et avec le conservatoire, on a eu l'occasion, avec mon cher Aramis et mon cher Malo qui sont passés, Malo est passé hier, de faire la régie du spectacle Lysistrata, avec Ève Rouvière à la mise en scène et en prof de théâtre. Et donc ça m'a beaucoup plu et ça a éveillé mon goût pour le spectacle vivant, si je puis dire. Et donc ça m'a permis aussi de faire le choix entre, quand le domaine du son m'intéressait, entre quel domaine, par exemple la prise de son au cinéma, le studio ou le spectacle vivant, même si rien n'est fermé après. Mais là, la formation dans laquelle je suis, c'est vraiment axé spectacle vivant. Et donc le plus de choses qu'on apprend, c'est vraiment pour faire de la régie théâtre et musique sur scène, en live, quoi.
D'accord. Et donc oui, pour du coup Lysistrata, on t'avait enregistré pour faire du violon du coup.
Ouais,
tout à fait. T'avais une ligne de violon qu'ensuite avec Malo on avait repris. Enfin bref, ça c'est une autre histoire.
Carrément.
Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu fais en ce moment ? Par exemple, c'est quoi une semaine type d'un étudiant en DNMAD d'école de Régisson et Lumière à Nantes ?
Carrément. Eh bien, nous avons passé le premier semestre qui était donc plutôt accès théorique avec plutôt peu de pratique pour connaître toute la base nécessaire pour ensuite acquérir des connaissances pratiques. Donc, sur le premier semestre, on avait surtout des cours, on avait de la physique sur tout ce qui est connaissance des enceintes, etc., en acoustique, et de la théorie du signal pour tout ce qui est dans la console. Donc on était sur des consoles analogiques pour nous expliquer comment marchait tout ce qui est potentiomètre, équaliseur, etc. Après, on a aussi des cours de dramaturgie. Donc en fait, ça apporte du coup un aspect artistique en plus de la technique, ce qui est vachement bien. Et donc tout ça, on peut le mettre en place à chaque fin de semestre où on a un projet, où on nous donne genre 40 pages de texte, on en choisit un extrait de 3-4 pages, et là c'est à chaque personne de faire tout et de donner des indications pour tout. Donc en gros, toi tu es à la régie son, donc t'as fait ta création son et tout qui va pour la scène de théâtre, un truc de 5 minutes. Et donc t'as donné, t'as fait toute la lumière, t'as fait ton réglage lumière, etc. Et donc t'as ton pote qui fait la régie lumière, tu lui as montré comment ça marchait. Et puis après t'as un autre gars de ta classe qui est comédien, et tu lui as déjà donné toutes les intentions de mise en scène, etc. Et donc tout ça, du coup, ça, en fait, ça vient condenser toutes les heures de théorie qu'on a eues auparavant. Et donc on met tout en pratique sur une semaine. Et donc c'est vachement cool, tout ça.
Ça doit faire du bien de faire de la pratique.
Ah, carrément. Tout à fait. Bon, c'est une semaine très plaisante où on bosse beaucoup, mais très fun à faire. Et puis après, avec la représentation à la fin qui est toujours très sympathique.
D'accord. Et donc, pour ce qui est de la création du spectacle, c'est vous le faites tous ensemble ?
En gros, pour le projet des sons, parce que du coup, dans la formation où je suis, nous sommes 10 en son et 10 en lumière chaque année. Et donc, le projet son est différent de ceux des lumières. En son... on a 10 projets différents de 5 minutes, en gros, qui s'enchaînent, qui fait un spectacle d'1h30. Et pour les Lumières, eux, c'est un projet commun, où t'as les 10 personnes qui bossent ensemble pour faire un spectacle, là ça durait genre 20 minutes, avec une création lumière, et 3 comédiens cette année qui étaient les personnes, donc les élèves.
Il y a vraiment plusieurs pôles, quoi. Enfin, y a une évaluation, par exemple, du travail de la création sonore, de la création lumineuse, Et j'imagine, je sais pas, il y a peut-être un metteur en scène ou etc.
Ouais, des carrément. Bah ouais, du coup, pour leur projet qui est commun, ils se répartissent le travail. Et par exemple, il y avait deux personnes qui faisaient le son, même si c'était en lumière. Enfin, en gros, ça permet de la diversité et la polyvalence des gens, quoi. À chaque projet, en fait, on choisit une régie, donc que ce soit pour les sons et les lumières, son, lumière, distribution électrique. Régie générale, et donc ça tourne à chaque projet, donc il y en a 6 au cours de la formation, donc déjà ça permet une approche de différents métiers en fait, qui peuvent être différents de celui de ta spécialité son ou lumière, et en plus de ça si tu veux te spécialiser dans autre chose, régie générale, distribution électrique, ou faire de la lumière quand t'es en son, etc, t'as tous les stages qui t'apportent ça et où t'es très libre.
D'accord, donc oui, c'est ça. Donc c'est une formation qui permet à la fois d'avoir une pratique théorique et pratique assez importante. Et à côté de ça, il y a aussi des stages.
Ouais, tout à fait. Il y a 16 semaines de stage à faire. Et en plus, tu as toutes les vacances qui sont allouées au stage si tu le souhaites et si tu en trouves pour en faire, donc pour avoir plus de pratique. Et ça apporte vachement de connaissances, quoi. C'est vachement cool.
Et tu as déjà fait un stage dans ta formation ?
Non, mais non. J'en fais un là dans 4 jours à Lannion, au pôle cirque au Carré Magique. Un spectacle en création de El Nucleo, le spectacle Barrière. C'est la dernière résidence avant la première au CDN de Normandie fin mars.
D'accord, et ce sera quoi ton rôle dans la création de...
Eh bien là, je serai avec la personne de la régie générale, régie son et régie lumière. Donc je vais tourner entre les 3 personnes, aider, et puis apprendre de ce qu'ils font, observer et pratiquer, quoi.
D'accord.
Voilà, ça va être cool.
Peut-être un petit stage à la Oulala aussi, pourquoi pas.
Tout à fait, mais dès la prochaine création, très très chaud.
Il est déjà fait pour Parking.
Tout à fait pour Parking. La création costume.
Costume, autre chose. Avec Sandra Look, quand même.
Tout à fait, tous de loin, tous du coin aussi, avec
Excel. Bah,
ah oui,
aussi.
Tout à fait.
Et t'es là aussi.
Bah, y a beaucoup de gens qui ont participé à tous de loin, tous de coin dans cette
pièce. Oui, Thomas aussi.
Room représente, quoi.
Mais à l'avenir, vous allez tous vous retrouver peut-être film, un spectacle, c'est possible. Hein
à fond, tout à fait.
Donc tu apprends aussi à travailler en groupe, là, tout d'un
tout
coup.
Tout à fait.
Défendre ses idées, enfin voilà comment...
Tout à fait, parce que même...
S'articulent toutes les différentes personnalités, quoi, aussi.
Tout à fait, ouais, parce que t'as, même si, par exemple, en son, le projet est personnel, on a quand même des compromis à faire et des travails ensemble, parce qu'on va pas installer 60 sources lumière par exemple au grill, parce que c'est ingérable. Donc voilà, on expose tous nos besoins et puis après on trouve des compromis très sympathiques à faire, et puis voilà, avec ton travail de régie par exemple, moi j'étais en régie lumière, tu demandes les besoins à tout le monde, après tu fais un plan d'implantation sur AutoCAD, tout ça, tu leur montres si ça leur va, tu peux faire des simulations lumière sur un logiciel directement, donc voilà, c'est sympathique à faire.
Donc, c'est tout un petit écosystème, quoi, où il y a plein de
tout
gens
à
qui
fait, tout à fait.
Ensemble.
Est-ce que c'est le moment d'une petite pause ou pas?
Oui. Allez.
Allez.
T'as ramené aussi un...
Tout à fait, un son,
un petit son.
Qui est utilisé pour le calage système qu'on commence à voir. Donc, en gros, c'est pour équaliser tes enceintes quand t'arrives dans un lieu ou si t'es dans un chapiteau, par exemple, imaginons. Eh bien, pour équaliser tes enceintes et si t'as des fréquences qui résonnent trop, et bien voilà, t'as un son de référence que tu connais bien et donc tu sais comment il sonne et tout ce qui ne va pas, tu peux le retravailler avec ton égalisation de sortie.
Bon, en tout cas, c'est ton son à toi pour caler des systèmes.
Oui, tout à fait.
Et tous les sons sont bons pour caler du système. Il suffit de le connaître, en fait.
Bien sûr, bien sûr, monsieur Axel.
C'est ça, il y a plusieurs. En fin de compte, chaque régisseur son a son...
A son petit son de...
Pour,
Mais ouais, en fait, chaque régisseur son a sa référence phonique, je vais dire, qui, lui, a l'habitude de l'entendre dans plein d'endroits. Et le fait de le passer dans un nouveau système, quand on arrive dans une salle et qu'on ne connaît pas l'acoustique, ou au moins pour être sûr que le système soit bien calé, alors dans le sens bien calé, c'est-à-dire qu'il répond bien à toutes les fréquences, ou effectivement pour aussi réentendre les acoustiques des lieux, tout ça, tout ça. Et bref, on a chacun un morceau ou la technique qui fait qu'en gros, on va rapidement, nous, ingénieurs du son, s'adapter au système qu'on a en face et pouvoir faire sonner au mieux le groupe ou le spectacle qu'on va sonoriser, quoi. Ouais. Alors on écoute ça.
On écoute ton son, Rodrigue. Oh.
promise I will love you long time. What can I do anytime? Tell me what you want, don't be so shy. Mm-hmm. Oh baby, what can I do anytime? I do it on and on to please you right for sure.
Alors bon, bah on va reprendre avec Rodrigue du coup, et on va un petit peu parler des trois années en fait, parce que ta formation du coup elle dure 3 ans.
Tout à fait.
Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu fais globalement, rapidement, durant ces 3 années et...
Allons-y, voilà. Allons-y. Donc du coup on a un premier semestre donc, que vient de passer qui est assez théorique, et après on va commencer la pratique, travailler tout ce qui est pratique, donc calage système qu'on est en train de voir. La multidiffusion donc, pour le théâtre.
Comment tu dis, c'est Calage System ?
Calage System, ouais.
Calage System, d'accord. Donc c'est un logiciel de...
Nous, pour l'instant, on n'utilise pas de logiciel parce qu'on n'est pas sur des systèmes genre Line Array que tu peux voir dans les festivals.
Ok.
On a vraiment 4 enceintes où on règle genre le delay. Tu vois, en gros, elles sont espacées, imaginons, de 10 mètres.
Ouais.
Et donc on va régler quelle enceinte, on va retarder le son d'une enceinte pour que le son arrive en même temps.
D'accord.
Et que pour pas que t'entendes pam pam.
D'accord, il y a une sorte d'écho un peu dégueu.
Voilà, avoir un son tout clair. À fait, tout à fait, okay. Tout à fait, monsieur.
Super.
Et du coup, là, on voit la multidiff aussi, donc pour le théâtre, donc genre faire tourner ton son, le mouvement de tes sons en fait, pendant ton spectacle,
ouais.
Donc avec tes pistes auxiliaires, etc. Et donc c'est très sympa à faire, là on peut utiliser des logiciels, du coup on est sur live, et après on implémente des plugins de spatialisation.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment un monde incroyable, et t'as d'autres logiciels pour aller encore plus loin, où tu règles vraiment, enfin tu rentres dans ton logiciel vraiment les mesures de tes enceintes exactes et tout, comment elles sont positionnées. Mais nous n'en sommes point là, mais zone espace à découvrir, si je puis dire. Donc voilà, donc ça c'est un travail qui se fait au cours des 3 ans. Et donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un projet de fin de semestre à chaque fois. Et donc on reste séparés son lumière les 3 premiers projets. Et à partir de la fin de la 2e année, on commence à faire des projets son lumière en binôme. Et donc très sympathique. Là par exemple, le projet de nos secondes années, c'est le 3 avril dans une salle de spectacle de Nantes, la salle Vasse. Et donc, donc ils sont en train de travailler dessus. Et là, on a vraiment un travail de mise en scène, de direction d'acteur et tout, qui est vraiment plus poussé avec notre prof d'art.
Tu dis direction d'acteur ?
Ouais. Bah, genre, en gros, pour la mise en scène, elle nous apprend vraiment à diriger les acteurs et donc avec nos intentions. Genre, on lui expose nos intentions. Enfin, la 2e année, du coup, en ce moment, expose leurs intentions. Et il donne des indications aux acteurs, aux comédiens qui sont des gens de la filière aussi. Et après, elle les corrige, en gros, enfin, donne d'autres indications qui vont plus loin pour essayer de coller au mieux à leurs intentions, à eux, initiales. Voilà, donc c'est un travail sympathique qui nous apporte autre chose que la technique, quoi. Et on a un vrai aspect artistique sympathique, comme tout.
Parce que tu seras confronté certainement à l'acteur qui ne va pas se mettre dans la lumière que tu as réglée, parce qu'il va oublier.
Ouais.
Oui.
Carrément. Mais donc oui, on apprend à mettre des marquages et tout au plateau. Mm-hmm. Voilà. Et donc après, donc ça c'est le projet de fin de 2e année et le projet de début de 3e année. Là, c'est on reprend le même projet avec les mêmes textes. Et donc là, c'est notre prof d'art qui, elle, fait la mise en scène. Et donc nous, on se colle à ses attentes et à ses volontés artistiques. Et donc la création son et lumière se fait selon ce qu'elle nous demande. Et donc là, c'est aussi un autre travail très intéressant de
plonger dans l'univers de quelqu'un.
Carrément.
Ça, ouais.
Tout à fait. Donc voilà. Et après, sur le second semestre de ta 3e année, c'est là où on a 3 spécialités qu'on peut choisir. Enfin non, on a une seule spécialité sur 3. Et donc dans ces spécialités, en gros, c'est pour choisir ce que tu veux faire après le diplôme, si tu veux directement travailler ou non. Donc, par exemple, la première est la spécialité régie générale et planification, planning, tout ça. Donc pour des gens qui veulent faire de la régie G, donc quels sont les plannings pour que le spectacle aille bien, tout nickel, voilà. Le travail de la régie G, je ne sais pas exactement tout ce que c'est, mais cette spécialité existe.
Il y a la relations humaines, c'est-à-dire que là, tu dois mener une équipe aussi, je pense. Enfin...
C'est ça, c'est regrouper, mais c'est bien que tu puisses voir tout ça aussi d'un aspect global. Effectivement, c'est comme un espèce de supérieur qui chapeaute le son, la lumière et tous les autres aspects qu'il peut y avoir aussi autour d'un spectacle, le costume, du catering, les artistes aussi, parce que souvent le régisseur général, dans la régie générale, on incorpore aussi la venue des artistes. Ça peut être aussi jusqu'à commander des billets de train pour les artistes et les techniciens et de l'hôtel. Enfin voilà, ça chapeaute un peu tout ça, quoi.
Excellent. Donc voilà la présentation de la régie G. Donc sinon, on a aussi une spécialité nouvelle technologie, donc où on va avoir surtout des cours de réseau et etc. Donc qui est de plus en plus utilisé. Dans le spectacle, on a notamment des cours de Dante, un protocole audio numérique entre autres. Et la 3e spécialité, c'est une spécialité pour préparer les concours des grandes écoles de théâtre, donc en technique, et donc notamment l'ENSAT et le TNS. Et donc là, on aura beaucoup de cours d'artistique et pas mal de cours de création, parce qu'ils nous demandent une création pour rentrer dans ces écoles-là. Voilà. Et des cours de sciences aussi, car il faut un niveau scientifique pas mal pour rentrer.
Donc là, 3 belles années en tout.
Tout à fait.
Perspective.
Carrément.
Donc pour l'instant, tu as l'impression que, voilà, d'être dans le bon signe.
Ouais, bah, carrément. Très, très cool cette formation. Elle me plaît au mieux, si je puis dire.
Je pense que ça va être le time. Axel me dit ça va être bon au niveau des horaires.
Moi, je dis rien. C'est pour respecter les autres qui viennent après. couvre-feu.
Bon, bah, du coup, c'est une fin d'émission, c'est ça ?
Mais tout à fait.
D'accord.
Donc, bah, merci Géraud, merci Rodrigue, merci Aramis.
Ah bah, pas de quoi, ça fait plaisir.
Et puis, on va se quitter avec un... Peut-être, on a le temps de passer un titre ? Oui, Géraud, je crois qu'on va écouter aussi ce que tu as choisi.
Ma deuxième musique.
Oui.
Qui est donc une musique de la BO de Peter Pan, qui est ce film, probablement, film de 2003, qui m'a probablement donné envie de faire ce métier.
Avec les enfants qui volent.
Exactement.
Et tout, c'est un bateau de pirate
ce
aussi.
Ce truc qui m'a émerveillé quand génial, j'avais 7-8 ouais, ouais. ans et je me suis dit, ouais, comment c'est possible.
Ouais, c'est magique.
Ouais.
Avec les harnais qui disparaissent.
Exactement.
Après, en post-prod.
Exact. Et le bateau pirate qui sort de nulle part. C'est bon.
Voilà.
Bon bah bonnes vacances quand même Rodrigue là.
Eh bien merci bien Joséphine.
T'es en vacances? Ah non toi
ah non,
tu vas non pas du
demain.
Tout, tu reprends demain tu vois.
Aïe aïe aïe.
C'est bon, bonne fin de week-end. Hein.
Merci.
Ouh là là.